Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le club des idées. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Et ce soir c'est un sujet majeur de sécurité publique qu'on aborde. Comment surveiller les djihadistes qui sont en ce moment libérés de prison? 43 cette année, 60 l'an prochain et ça continuera en 2022. La question inquiète en plus haut lieu. Sont-ils toujours dangereux et endoctrinés? A-t-on les moyens de les surveiller correctement? On en débat donc ce soir avec nos invités. À 19h15, à ne pas rater la carte blanche du club des idées avec ce soir la chercheuse et scientifique Aurélie Jean. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, nous dira-t-elle. Mais d'abord le journal avec vous, Carole Ferry. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe.
Notre message est de déconseiller formellement ces utilisations pour ces médicaments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, encore une fois, et qui exposent ces enfants à des risques dans le cadre de ces pratiques individuelles.
Le cri d'alarme de l'Agence du médicament, elle saisit la justice contre les médecins qui prescrivent des anti-infectieux aux enfants autistes.
Oui, nous entendrons la colère d'un maire des Bouches-du-Rhône, sa commune, 100 cas de Covid, fait partie des 27 villes obligées de porter le masque depuis hier.
Un an et demi après l'explosion au gaz qui avait fait 4 morts, rue Trévise, la mairie Paris et le syndic de l'immeuble sont mis en examen.
Une signature historique, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis reconnaissent l'État d'Israël. C'est un coup de tonnerre d'une certaine manière. Décryptage avec l'œil de Didier François dans quelques secondes.
Enfin, que faut-il aller voir dans les films qui sortent demain au cinéma? La réponse de Mathieu Charrier dans ce journal.
La tendance météo avec vous, Anissa. Toujours de la chaleur et un peu plus de nuages demain au programme.
Et c'est dans le sud-ouest, Julien, que les températures seront les plus élevées demain, toujours au-dessus des moyennes de saison. Et puis dans certaines régions, l'atmosphère va devenir orageuse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une décision extrêmement rare. L'Agence du médicament a décidé de saisir la justice.
En effet, elle s'inquiète de la prescription par certains médecins d'anti-infectieux comme les antibiotiques à des enfants autistes.
Ces traitements n'ont jamais prouvé leur efficacité et peuvent même se révéler dangereux, Ève Roger.
Oui, oui, vous l'avez dit, ce sont des antibiotiques, des anti-infectieux, des antiparasitaires ou encore des médicaments censés éliminer du corps des métaux lourds comme le plomb, des traitements prescrits par des médecins à des enfants autistes totalement hors des clous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Pire, vous l'avez dit, ils n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité contre l'autisme. Et pour Philippe Vella, directeur du médicament en neurologie à l'Agence du médicament, il est urgent d'alerter les parents.
Le message qu'on veut porter, c'est un message d'alerte aux familles. Ces familles qui peuvent être dans une situation de désarroi face à une pathologie et à leurs enfants pour lesquels on n'a pas de thérapeutique efficace, curative. Et donc, notre message, c'est de déconseiller formellement ces utilisations pour ces médicaments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, encore une fois, et qui exposent ces enfants à des risques dans le cadre de ces pratiques individuelles.
Et donc, ces risques, ce sont des troubles digestifs, cardiovasculaires, des symptômes cutanés, mais aussi, et c'est plus grave, ces enfants peuvent développer ce qu'on appelle une antibiorésistance, c'est-à-dire que s'ils sont atteints d'une infection, les antibiotiques pourraient ne plus être efficaces.
Merci beaucoup pour ces explications, Ève Roger. Et maintenant, cette surprise d'un maire des Bouches-du-Rhône.
Oui, surprise et même colère d'une certaine manière, puisque la préfecture a présenté hier les nouvelles restrictions pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. On en a parlé ici même. Parmi les mesures annoncées, le port du masque obligatoire dans 27 communes.
Et sa commune de 4500 habitants, avec aucun cas de Covid, est dans la liste. Et ça ne plaît pas du tout au maire de Mimé, Georges Christiani.
Il y a zéro cas dans les écoles. Il y a zéro cas à la maternelle, zéro cas à la crèche. Dans les EHPAD que nous avons, il n'y a pas de cas. J'ai toutes les attestations. C'est pas normal que je me retrouve sur une liste où je serais censé avoir 100 cas pour 100 000 habitants. Mais dans ma commune, il y a 4 700 habitants. Ça veut donc dire qu'il y a au maximum 5 cas de Covid. Mais on marche sur la tête de ne pas avertir le maire. On marche sur la tête parce que là, on angoisse 4700 habitants alors qu'il y a peut-être 5 cas de Covid positifs que je ne connais pas. Ça met la population en émoi, ça. Le directeur général de l'ARS a fauté. Il a fait une faute. Il grave.
Georges Christiani, le maire de Mimé, au micro de Jean-Gabriel Bourgeois.
Et après l'annulation de la foire de Marseille, hier, c'est au tour de la foire de Paris et de la foire d'automne d'annoncer leur report en 2021. Il n'y aura pas non plus de championnat de France de surf cette année. La compétition devait avoir lieu du 17 au 25 octobre dans les Landes.
Didier Raoult est venu s'expliquer aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat.
Le patron des maladies infectieuses de Marseille avait beaucoup, vous le savez, fait parler de lui en essayant de défendre son traitement à l'hydroxychloroquine contre le coronavirus.
Une présentation, on va dire, entre humilité et pointe d'arrogance.
Je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors, bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde.
Voilà le professeur Didier Raoult. C'est une explosion au gaz qui avait fait la une de tous les journaux le 12 janvier 2019. 4 morts, plus de 60 blessés, rue Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris.
Plus d'un an et demi après, la mairie de Paris et le syndic de l'immeuble viennent donc d'être mis en examen. Qu'est-ce qui leur est précisément reproché, Justin Morin ?
Alors, ils sont poursuivis notamment pour homicide et blessures involontaires. Tout est écrit dans un rapport d'expert rendu il y a 5 mois sur lequel s'appuie cette décision. Au cœur de l'enquête, il y a l'affaissement du trottoir qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz. La cause, une fuite d'eau issue de l'immeuble rue de Trévise qui avait été signalée des années auparavant. Le syndic ne l'a jamais réparé, il est accusé de négligence. La mairie, elle, est mise en cause pour un défaut de vigilance. D'après le rapport, l'explosion aurait pu être évitée si les services de la voirie avaient cherché la cause de cet affaissement de trottoir. Une expertise que conteste la ville de Paris par la voix de son avocate, maître Sabrina Goldman.
Nous considérons n'avoir commis aucune faute. Maintenant, nous allons enfin pouvoir prendre part aux investigations qui vont continuer d'être menées et demander une contre-expertise et continuer à essayer de comprendre.
Donc cela va prendre encore beaucoup de temps, des années avant qu'il y ait un procès. Ce que regrettent les victimes, maître Elsa Crosati en défend une vingtaine.
Cette mise en examen, c'est une très bonne chose. Ça fait 2 ans maintenant, bientôt, que les victimes attendent. Elles ont besoin d'être reconnues comme victimes et de percevoir une indemnisation. Mais au final, c'est un début de commencement d'avancée. Tout le dossier est quand même encore très lourd et très loin d'être fini.
Aujourd'hui, les victimes touchent déjà des indemnisations prévisionnelles, mais qui ne sont pas à la hauteur du préjudice, selon leur avocate. Elles attendent de la mairie qu'elle prenne ses responsabilités.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Début aujourd'hui au Japon du procès dans lequel aurait dû être jugé Carlos Ghosn. En son absence, c'est son ancien collaborateur chez Nissan, Greg Kelly, qui se retrouve en première ligne. Les deux hommes sont accusés d'avoir caché au système boursier la véritable rémunération que Carlos Ghosn était censé toucher. Greg Kelly a plaidé non coupable à l'ouverture de l'audience. Dans l'Oregon, aux États-Unis, les incendies continuent à faire des ravages dans l'ouest du pays. Sans doute difficile à gérer pour ces viticulteurs français rencontrés par notre correspondant Xavier Yvon. Ils sont installés depuis 20 ans dans l'Oregon et apprennent à vivre avec menaces de feu et pollution de l'air.
Les flammes ont épargné les vignes. Elles se sont arrêtées à 5 km du domaine de Bruno et Isabelle Corneau.
On pouvait voir les fumées se rapprocher sur la colline juste à côté. Et bon, ce serait cru dans un film d'apocalypse avec un ciel rouge foncé.
Le couple de vignerons a eu de la chance, mais c'est tout leur environnement qui est touché.
Je connais beaucoup de gens, non seulement des gens qu'on connaît, mais aussi des ouvriers qui ont été affectés par les feux, des villes entières qui ont été détruites. C'est à la radio tous les jours, ils comptent le nombre de disparus, de morts. C'est très très compliqué, ne serait-ce que pour continuer de travailler, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'aller vérifier s'ils ont perdu des proches ou si même ils peuvent habiter quelque part.
Et puis il y a ce brouillard toxique qui enveloppe les collines et les rangées de cèpes. Il faut porter des masques antiparticules en permanence. Le chat de la famille en est même tombé malade.
J'ai posé des questions à des amis aussi qui ont des animaux domestiques et puis bon, ils ont exactement les mêmes symptômes. Les animaux, les chiens, les chats vomissent. Donc si on voit déjà l'effet que ça peut avoir sur des animaux domestiques, c'est alarmant.
Comment faire travailler les ouvriers agricoles dans ces conditions ? C'est le dilemme alors que les vendanges approchent. Newberg, Xavier Yvon, Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal à 19h10 avec Carole Ferry. C'est une signature historique pour l'État d'Israël.
Oui, aujourd'hui à la Maison Blanche, deux pays arabes vont ratifier un accord de paix avec l'État hébreu.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont donc accepté de reconnaître reconnaître l'État d'Israël après de fortes pressions américaines. C'est une victoire diplomatique, oui, on peut le dire clairement, de Donald Trump.
Tout à fait, c'est même un beau succès, hein, puisque c'est la première percée diplomatique israélienne dans le front arabe du refus depuis l'accord de paix signé en 1979 avec l'Égypte, puis celui paraphé en 1994 avec la Jordanie. D'autant que cette reconnaissance ne fait l'objet d'aucune contrepartie politique de la part de Tel Aviv, si ce n'est une vague promesse de reconsidérer la menace d'annexion de la vallée du Jourdain agitée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou depuis sa réélection. Et c'est donc un changement de pied important de la part des monarchies du Golfe, dont la position commune était jusqu'à présent de conditionner toute reconnaissance d'Israël à son acceptation de créer un État palestinien avec Jérusalem Est pour capitale. Alors certes, l'Arabie Saoudite n'a pas encore signé, c'est le poids lourd de la région qui était à l'origine de ce plan de paix arabe, mais pour autant, elle ne s'est pas opposée à ces accords. Bien au contraire, puisque ni les Émirats ni Bahreïn n'auraient pu les signer sans le feu vert de Riyad. On est donc bien face à une évolution majeure des rapports de force au Proche-Orient.
Alors dites-moi, Didier, quelles sont les raisons d'une telle évolution ?
Eh bien, c'est l'arrivée au pouvoir dans les monarchies du Golfe d'une génération de dirigeants persuadés que leur ennemi stratégique, c'est la République islamique d'Iran, que les milices révolutionnaires chiites qu'elle contrôle au Liban, en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, et puis surtout sa capacité à se doter de l'arme atomique, eh bien, représente une menace mortelle pour le monde sunnite. Et dans cette confrontation, les États-Unis, ce sont leur assurance vie, et Israël pourrait bien devenir un allié de tout premier ordre. Si pour cela, bah, il leur faut sacrifier les revendications palestiniennes, ça ne va certainement pas les empêcher de dormir.
Et ce soir, Netanyahou, Didier, qualifie les accords, je cite, de tournant de l'histoire. Ça n'est pas rien comme déclaration de la part du Premier ministre israélien.
Absolument.
Merci Didier François. L'œil de Didier François, c'est d'ailleurs, vous le savez, tous les soirs dans le journal de 19h.
5 migrants ont été arrêtés aujourd'hui pour l'incendie du camp de Moria à Lesbos, en Grèce. Selon les autorités grecques, ces arrestations discréditent ainsi le scénario d'un incendie déclenché par des extrémistes.
Et à noter que la chancelière allemande, Angela Merkel, se dit prête ce soir à accueillir 1500 migrants victimes de ces incendies, essentiellement des familles avec enfants. 12 000 demandeurs d'asile au total se sont retrouvés sans abri.
Demain, c'est mercredi, la journée des enfants, mais aussi des sorties cinéma. Et vous nous conseillez ce soir, Mathieu Charrier, Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy que l'on a découvert dans 10%.
Oui, qui est une comédie romantique avec un âne au milieu. Je vous explique. Laure Calamy joue donc Antoinette, institutrice, qui a la bonne idée d'être la maîtresse du papa d'une de ses élèves. Il s'appelle Vladimir, il est joué par Benjamin Lavergne. Depuis des mois, il lui promet une semaine de vacances ensemble. Mais à la veille de ce grand départ, Vladimir lui annonce qu'en fait, il part avec sa femme et sa fille marcher dans les Cévennes, ni une ni deux. Antoinette leur emboîte le pas, aidée d'un âne qui s'appelle Patrick et qui va l'accompagner donc sur ses chemins escarpés et devenir bien plus qu'un compagnon de randonnée. Écoutez Laure Calamy.
Antoinette, elle est comme avec un psy. elle déverse sa vie. Comme nous dit Montaigne, la parole est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et Jazou écoute extrêmement bien.
Alors ce qui est génial dans ce film, qui est une comédie, c'est que vous avez à la fois les scènes de randonnée dans les Cévennes avec ce duo Laure Calamy et cette âne, un duo tendre et touchant. Et puis derrière, la question du célibat des femmes, puisque ce personnage est totalement dépendante de son homme, mais elle va petit à petit s'en affranchir, évidemment, je le redis grâce à l'âne. Bref, ça fait du bien de voir des comédies intelligentes, réfléchies, construites, réussies. Donc allez-y, ça s'appelle Antoinette dans les Cévennes.
Merci Mathieu Charrier. Enfin Julien, avez-vous une idée de combien de temps vous pouvez retenir votre respiration ?
1 minute 40.
Ah mais dites donc pas mal.
Mais sans bouger, sans lever l'orteil. Sous l'eau, mais sans bouger. Hein.
Ah ouais, bravo. Eh bien, vous sachez, faites... bon, vous êtes quand même.
J'ai fait ça avec mes enfants il
n'y
a pas longtemps, c'est pour ça que je le sais.
Du français Arnaud Gérald. Il est resté, lui, en apnée sous l'eau pendant 3 minutes et 24 secondes. Exactement.
C'est là
en
la
mouvement.
Performance.
Et ouais. Et surtout,
parce que sinon, vous savez que c'est 7 minutes en apnée statique. 7 minutes, voilà. Bon.
Vous êtes quand même un pro de l'apnée, hein, sous l'eau. Donc, en tout cas, lui, il a battu un record du monde grâce à ses 3 minutes 24 secondes. Il est descendu à 112 mètres de profondeur, en mouvement, bien entendu.
Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose, hein. 3 minutes 24, mais à 112 mètres de profondeur. Merci, Carole Ferry, pour le journal.
Bonsoir.
La météo avec vous, Anissa. Le vent se lève, le vent souffle demain.
Rien d'inquiétant parce que ça ne va pas faire baisser les températures légèrement. Allez, quelques degrés sur le nord-ouest. Mais le vent dans le sud-ouest qui souffle, lui va faire remonter les températures. Je vous explique tout ça. Sur les côtes de la Manche, demain matin, c'est le vent du nord-est qui se lève et qui souffle en rafale jusqu'à 80 km/h. Attention, ça souffle fort. En début de journée, dans le Roussillon, nous aurons des entrées maritimes qui seront nombreuses, qui vont très vite se dissiper. Et dans l'après-midi, sur les régions montagneuses, le temps est orageux. Attention sur les reliefs, donc le tonnerre va gronder. Partout ailleurs, il fait très beau et les températures perdent quelques degrés. Je vous le disais, au nord à cause du vent, nous aurons 23 à 32 degrés sur la moitié nord et 30 à 35 degrés sur la moitié sud. 35 pour Mont-de-Marsan, où là, le vent de secteur sud-ouest fait remonter les températures.
J'ai eu peur.
Vous m'avez suivi?
Oui, oui, absolument, bah oui, j'ai tout compris. Bien.
À demain.
Merci Anissa, à demain. 19h16, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des Idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour, vous en avez l'habitude maintenant. Et ce soir, j'accueille Aurélie Jean, chercheuse, entrepreneur, spécialiste des algorithmes et qui fait partie, j'ai lu ça, du club très fermé des Françaises les plus influentes au monde.
En
2020 aussi, j'en suis sûr. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Julien.
On est ravis de vous accueillir dans le Club des Idées, évidemment. Alors ce soir, vous nous parlez justement d'intelligence artificielle, c'est ça ?
Alors, pas exactement, justement. J'ai envie de vous parler de stupidité artificielle, si vous me permettez. Alors, est-ce que vous connaissez ce mot, intelligence artificielle ?
Oui, je le connais, on l'entend et on le lit souvent dans les médias ou les revues.
C'est pas faux, on le lit souvent, mais je vais être honnête, il est maladroitement utilisé et il peut souvent faire peur. Après tout, en quoi l'intelligence peut être artificielle ? C'est une bonne question. Rappelons quand même que l'intelligence artificielle, qui regroupe bien évidemment beaucoup de disciplines, représente l'ensemble des simulations sur ordinateur qui reproduisent virtuellement et artificiellement une certaine intelligence.
Pourquoi Aurélie Jean, une certaine intelligence ?
Eh bien justement, parce qu'elle ne reproduit pas l'intelligence humaine dans sa globalité et sa complexité. Ici, on parle bien d'intelligence analytique uniquement. Celle qui est constituée de raisonnement analytique, donc parfois mathématique, pour résoudre un problème ou répondre à une question. Pour vous expliquer la nuance, il faut faire appel à la théorie triarchique de l'intelligence humaine du professeur américain Robert Steinberg dans les années 80.
Oulala, quelle est donc cette théorie triarchique dont je suppose qu'il y a trois composantes de l'intelligence ?
Exactement, Julien.
Si Robert je décompose le mot, hein,
exactement,
un peu bêtement.
Exactement, trois. Donc en fait, Robert Steinberg, donc, ce professeur américain, identifie trois types d'intelligence dans l'intelligence humaine. Tout d'abord l'intelligence analytique, celle dont on a parlé justement. Oui. Et puis il y a aussi l'intelligence pratique et l'intelligence créative. Grosso modo, pour que les gens comprennent, on pourrait regrouper également au sein des intelligences pratiques et créatives les intelligences émotionnelles et de situation.
J'ai les trois, moi par exemple, quelqu'un
sûrement.
De normalement composé.
Oui, vous avez un raisonnement analytique, vous raisonnez analytiquement, vous avez des émotions, donc vous avez une créativité, une certaine intelligence de situation, c'est-à-dire que par exemple, quand vous étiez petit, vous avez vu une fois un chien, la deuxième fois, vous l'avez tout de suite reconnu.
A priori,
qu'une intelligence artificielle a besoin...
Là par exemple, quand vous êtes rentré dans le studio, je vous ai reconnu, j'ai dit tiens, c'est Aurélie Jean pour la carte blanche.
Alors qu'on s'est vu qu'une seule fois, il y a deux semaines. Exactement,
bon,
c'est
alors,
une certaine intelligence.
Alors si je vous suis correctement, ce que vous dites, c'est qu'on devrait parler d'intelligence analytique artificielle.
Alors, c'est pas si simple. L'idée est bonne, j'aime beaucoup l'idée, mais c'est pas si simple parce que ça réduirait les champs de recherche sur la modélisation des émotions, par exemple. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, ce qui est bien plus drôle selon moi, c'est d'utiliser le terme introduit par le professeur Joshua Benjo dans une interview donnée en 2016 au magazine universitaire MIT News.
Alors le professeur Benjo, c'est celui qui a reçu en 2019 le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en sciences informatiques.
Exactement. Il a dit, je le cite, « Nous devrions parler de stupidité artificielle, car on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent, mais on le rend moins stupide. » Le poids des mots compte, Julien. Leur utilisation aussi.
Est-ce que je peux vous poser une dernière question,
ben,
Aurélie ?
Je vous en prie.
Est-ce que cette intelligence artificielle ou cette stupidité artificielle, comme vous venez de le dire, pourra prendre un jour le contrôle sur notre libre arbitre ?
En fait, la question est peut-être mal formulée parce que ça dépend de comment on va utiliser cette intelligence artificielle. Et c'est pourquoi il faut comprendre comment ces outils fonctionnent, comment les algorithmes fonctionnent, pour justement décider ou pas d'utiliser les outils, comment les utiliser, quand les utiliser et peut-être éventuellement rejeter la suggestion algorithmique.
On a encore plein de choses à
Ce
voir ensemble.
Ce serait d'autres chroniques.
Non mais vous allez revenir Aurélie Jean, parce qu'on a encore plein de choses à expliquer avec vous. Merci beaucoup
Merci
pour
à
cette
vous.
Analyse.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on se retrouve à présent pour le grand débat du Club des Idées. Ce soir, c'est au terrorisme qu'on a décidé de s'intéresser. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison? 43 cette année, ils seront une soixantaine en 2021. Et cela alors que se tient, vous le savez, en ce moment le procès Charlie Hebdo et qu'on parle de plus en plus de séparatisme islamiste. Alors ces djihadistes représentent-ils toujours un danger pour la société? Comment sont-ils surveillés et par qui? On en parle ce soir avec Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, SNMFO et ancienne juge antiterroriste. Bonsoir. Et on en parle avec Hugo Micheron, chercheur à la chaire Moyen-Orient Méditerranée, à l'École Normale Supérieure, enseignant Sciences Po, Princeton et auteur de Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison. C'est aux éditions Gallimard et c'est sorti en janvier 2020. Vous avez d'ailleurs pour ce livre, Hugo Micheron, rencontré, c'est un travail assez unique, des dizaines de djihadistes, 80 je crois, incarcérés dans des prisons françaises, mis en cause pour des faits de terrorisme. Et quelle est votre conviction d'abord sur ces condamnés ou ces prévenus pour voilà, dire les choses clairement? Représentent-ils encore un danger pour la société à leur sortie de prison?
Alors c'est très dur en tant que chercheur de me prononcer sur des cas individuels. Ce qui est certain, c'est que le djihadisme en tant que mouvement militant, collectif, n'a pas été vaincu, n'a pas disparu, notamment également sur le plan idéologique. Et même de ce point de vue-là, le passage par la prison a tendance à renforcer les rangs. Alors non pas que sur les 500 djihadistes qui sont à l'heure actuelle encore derrière les barreaux, il n'y en ait pas qui ne vont pas être réinsérés, ça c'est tout à fait possible.
C'est vrai
possible.
Que vous dites, dans votre livre, vous dites « la prison, c'est l'ENA du djihad ».
Oui, en fait, ce que je voulais attirer l'attention sur le fait que les djihadistes, en fait, le djihadiste ne finit pas sa course en prison. C'est un espace dans lequel ils vont, pour certains, chercher à prolonger leur militantisme, pour d'autres, chercher à travers le temps dont ils disposent à s'éduquer, à s'endoctriner davantage, mais aussi parfois à lire, et puis également à convertir. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la relation qui peut exister entre des djihadistes qui sont passés par la Syrie ou pas, qui ont été parfois condamnés en France pour leur participation à des attentats ou à de la propagande, et qui à un moment donné...
Ce ne sont pas tous des gens, c'est la question que je voulais poser aussi à Jean-Charles Brizard, ce ne sont pas tous des gens qui ont du sang sur les mains. C'est quoi le pédigré ou le profil de ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui pour appartenance au djihadisme ou au terrorisme?
Il y a plusieurs degrés d'engagement dans le djihadisme. On le voit très bien à l'heure actuelle avec le procès de Charlie Hebdo. Ceux qui sont accusés dans le box, ce ne sont pas les coupables des tueries de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ou de Montrouge. En revanche, ce sont des logisticiens, en tout cas des personnes accusées d'avoir été des logisticiens, d'avoir logé, d'avoir fourni des voitures ou des armes. Donc le djihadisme, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de second couteau dans le djihadisme, et ça, c'est très important. Il y a différents niveaux d'implication, et ce qui rend aussi cette matière assez malléable et donc parfois dure à approcher. C'est pour ça que la seule approche, la surindividualisation de l'approche des djihadistes nous fait un peu manquer le fait que c'est une mouvance qui a plutôt tendance à s'élargir. Il y avait quelques dizaines de djihadistes dans les années 90, il y en a 500 derrière les barreaux aujourd'hui, c'est donc un mouvement qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Évidemment.
Alors, même question Béatrice Brugère, pour fixer un peu l'enjeu du débat, à votre avis et au gré des informations que vous avez, sont-ils encore dangereux ces 43 condamnés qui vont sortir cette année de prison?
Oui, alors, pour compléter ce que vient de dire...
Ce sont des gens qui quand même, ont fait pour certains 7 ans de prison, ce sont des gens qui ont purgé leur peine, qui ont fait le maximum.
Pour répondre à votre question et compléter ce que vient de dire Hugo Micheron, on est quand même sur une criminalité très particulière. C'est pour ça que la question de la dangerosité, elle est pertinente, parce que dessous, il y a un substrat idéologique avec une motivation très politique, politique au sens large, et un rejet d'un modèle. Donc, on n'est pas sur une criminalité classique, si vous voulez, passionnelle, ou d'appropriation des biens, etc. Donc, en fait, la difficulté, c'est que vous avez... une évaluation de la dangerosité qui est très compliquée à faire dans la mesure où, en plus, dans cette idéologie, vous le savez, il y a la dissimulation qui est préconisée. Mais ce que je voulais simplement dire sur le chiffre et la masse, parce que c'est ça aussi qui intéresse vos auditeurs, attention, il y a ceux qui sont passés à l'acte
et qui sont identifiés comme terroristes, hein, c'est ceux dont vous avez cité et dont Hugo Micheron vient de parler, mais il y a ceux, et c'est parce que c'est une idéologie, qui sont en train de se radicaliser. Et là, le nombre...
Oui, qui sont incarcérés pour des actes de droit commun.
Exactement.
Et qui sont en train de se...
Et puis,
donc c'est plus de 500, là.
Exactement. Et puis, il y a aussi 8000 personnes inscrites à ce qu'on appelle le fichier des personnes radicalisées, qui fait que la question de la masse et de la quantité est un vrai sujet. C'est-à-dire que là où on avait quelques terroristes, maintenant, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la quantité qui est cumulée avec la dangerosité.
Alors justement, est-ce qu'on a une idée de ce chiffre et de ce volume, Jean-Charles Brizard, très clairement, combien de personnes aujourd'hui incarcérées qui sont radicalisées ? 500 pour terrorisme, mais combien sont radicalisées ?
Voilà, 510, c'est-à-dire détenus pour fait de terrorisme islamique, islamiste. 200, enfin la moitié déjà condamnée, l'autre moitié en détention provisoire, puis un peu plus de 700 individus effectivement détenus
plus de 700,
pour
des faits
de droit commun susceptibles ou en voie de radicalisation. Et c'est vrai que ce double à l'enjeu individuel dont vous avez parlé effectivement, ou de groupe plutôt, l'enjeu de la prison elle-même, si vous voulez. La prison est devenue un lieu propice organisationnel pour ces individus aujourd'hui et depuis ces dernières années pour organiser des projets d'attentats, des attentats eux-mêmes. Hein. Il y a eu 9 incidents terroristes depuis 2 ans dans les prisons françaises. Ça veut dire que ça devient de plus en plus un foyer terroriste.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le grand débat du Club des idées, ce soir on s'intéresse aux terroristes. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison ? Je le disais, 43 cette année, ils seront une 60aine en 2021. Comment sont-ils surveillés ? Sont-ils toujours autant radicalisés ? La réponse est oui pour Meyer Habib, le député UDI, porte-parole du parti sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des terroristes sortant de prison. On l'écoute et on en débat après avec nos invités.
Je voudrais rappeler que Mera Kouachi Kolibali Kermich, l'un des assassins du père Hamel, tous sont passés avant par la case prison. On est dans un domaine où le risque de récidive est très élevé. Je comparerais cela à des criminels en série.
Voilà, Jean-Charles Brizard, vous êtes président du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce qu'on a justement un indicateur de récidive pour ces personnes qui sont condamnées pour appartenance ou en lien avec le terrorisme ?
Alors, direz-vous, dans ce pays, il n'y avait pas jusqu'à présent de personne n'avait pensé calculer un taux de récidive en matière terroriste. En tout cas, au niveau du parquet, il n'y avait pas, de chiffre qui existait. On s'est concentré, on a essayé de le faire en se concentrant principalement sur la catégorie de détenus qui nous paraît la plus importante et la plus dangereuse, ce sont les revenants. Pourquoi ? Parce que d'expérience...
Les revenants, ce sont ceux qui reviennent
de
Syrie,
d'Irak, zone d'opération, de groupement terroriste, comme on dit. Et pourquoi ce sont les plus dangereux ? Parce que l'expérience nous a montré dans le passé que, précisément, ces individus, ceux qui ont été au contact d'une organisation terroriste, ceux qui ont été formés au maniement des armes explosives, à leur retour, effectivement, une année, 2 années, ou parfois 10 années plus tard, pouvaient à nouveau se réengager, c'est-à-dire être condamnés éventuellement pour des faits de terrorisme qui peuvent être à la fois du soutien logistique,
et
matériel,
combien
financier.
Combien alors le font ?
Alors, sur 200 individus dont on a pu documenter le séjour, soit en Afghanistan, soit en Irak dans les années 2000, soit en Bosnie dans les années 90, sur ces 200 individus, 60% d'entre eux, après leur retour sur le territoire national, ont été condamnés pour des faits de terrorisme distincts de leur seul séjour sur place. C'est-à-dire 60% de ces individus
60%.
Ont récidivé très concrètement.
Alors,
sur des faits de terrorisme.
Il y a un exemple aussi symbolique. Hein, en janvier dernier, est sorti de prison le premier djihadiste français parti combattre en Syrie. On ne va pas donner son nom de famille, il s'appelle Flavien. Il est sorti, dit-on, aussi radicalisé qu'en entrant en 2013. Il était pourtant à l'isolement, il est toujours radicalisé. Il a fait 7 ans en ferme, c'était le maximum. Que peut-on faire de plus, Hugo Micheron, pour des individus comme ça ?
En fait, la question...
Vous l'avez rencontré d'abord ce...
J'ai son frère. Et puis,
son frère.
Lui, à vrai dire, ça aurait dû être le premier que je devais rencontrer, puis il a refusé au dernier moment.
Donc, mais son frère aussi est radicalisé.
Son frère est également parti en Syrie, et ils ont une histoire commune, comme on voit beaucoup dans le djihadisme. Hein, c'est souvent des fratries, quand c'est pas des fratries.
Et comment on peut les déradicaliser, je sais que le mot fait un peu débat, mais les récupérer, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux une fois qu'ils sortent de prison, ils ont fait leur peine, on sait qu'ils sont dangereux. Comment les surveiller ?
En fait, selon moi, la question qui se pose quand même, c'est presque une question philosophique. À un moment donné, c'est comment est-ce qu'on punit un djihadiste ? C'est-à-dire que pour l'ensemble de la société, aller en prison, c'est la punition suprême. C'est la privation des libertés. C'est un temps extrêmement délicat, loin de ce qu'on aime, avec en plus la vie carcérale qui est souvent très très dure. Pour un djihadiste, ce qu'on remarque, c'est que, pas tous encore une fois, mais dans la grande majorité des cas, le passage par la prison est une étape dans une carrière plus large. Un moment où ils vont, on le voit hein, vraiment dans les grands profils djihadistes, les Kouachi, dont le procès de Charlie Hebdo, enfin des attentats contre Charlie Hebdo, en ce moment, il est question que de ça. On voit très bien qu'à un moment donné, Chérif Kouachi s'est affirmé en prison. Mais avant lui, dans les années 90, c'était la même chose pour Khaled Kelkal, l'auteur des attentats de 1995 à Paris. Et donc, en fait, il y a vraiment cette question. Est-ce qu'une peine de prison à l'heure actuelle, est-ce qui punit le mieux un djihadiste? Elle est ouverte. Je ne dis pas qu'il faut trancher la question, mais c'est, il faut comprendre...
Mais quelle est votre conviction,
Ma conviction, c'est que l'utilisation... Ils utilisent le temps derrière les barreaux. Ils sont extrêmement adaptés à la prise en charge carcérale.
Quelle alternative?
Ça, je n'en ai pas la réponse, parce que je ne suis pas spécialiste de politique publique. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument comprendre l'usage qu'ils font de la prison. Parce que peut-être que la prison est le bon endroit, mais dans ce cas-là, il faut comprendre comment ils ont exploité leur temps derrière les barreaux.
Mais vous dites c'est une étape dans la carrière du djihad.
Dans ce cas-là, je pense qu'il faut remettre en partie en question les analyses seulement individuelles des djihadistes derrière les barreaux pour comprendre la dimension collective et revoir l'approche simplement sous l'angle de la dangerosité. Oui. Parce que des djihadistes peuvent être extrêmement dangereux sans poser de bombe, tout simplement en recrutant derrière les barreaux. Et donc, c'est vraiment cette dimension idéologique qui doit également rentrer en compte.
Alors, même question, Béatrice Brugère, vous êtes notamment ancienne juge antiterroriste. Quelle réponse face à ces individus qui, une fois sortis de prison, sont toujours aussi dangereux qu'au moment où ils y sont rentrés et parfois même plus radicalisés encore?
Bon, la question est compliquée. C'est vrai que personne n'a vraiment la réponse. Ceci dit, on peut avoir quand même des intuitions.
Et je suis tout à fait d'accord.
Juste pour dire, et là, je rejoins ce qui a été dit. Moi, j'avais jugé, par exemple, les frères Klein hein, en collégialité. On voit très bien que ces filières, c'est comme des poupées russes. On les retrouve, ils se repositionnent, ils se perfectionnent. Donc, c'est un vrai problème parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une violence très particulière, très idéologique, et que finalement, la déradicalisation, ce que vous avez posé au départ, n'est pas du tout une évidence. Donc, il faut peut-être qu'on change notre paradigme. Et là, je rejoins le questionnement d'Hugo Micheron qui est très intéressant. Déjà, rien que poser la question, c'est déjà commencer à y répondre. Parce que tout le monde ne la pose pas comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on est capable aujourd'hui de changer dans notre modèle et notre appréhension de cette dangerosité? Alors, moi, je simplement...
Mais la rétention de sûreté, pour parler clairement.
Alors, justement,
vous êtes pour ou vous êtes contre?
Sur la prison, en tout cas, je peux déjà donner une piste qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pense qu'il faut aller sur des établissements spécifique, c'est-à-dire arrêter pour ceux qu'on a bien identifiés comme des gens très dangereux, de les mélanger avec d'autres personnes parce que ils continuent, et c'est tout à fait vrai, leur endoctrinement et leur prosélytisme. Première chose, donc déjà éviter la contamination au maximum. Et après, la deuxième question, et ça c'est une question de responsabilité à la fois de politique publique mais aussi judiciaire, c'est prendre toute la mesure de la dangerosité au moment du prononcé de la peine. C'est-à-dire qu'en effet, il faut arrêter de les regarder comme des gens déséquilibrés, fragiles, etc. Il y en a, mais pour ceux qui sont vraiment dangereux, il faut être, responsable par rapport aux peines que l'on prononce. Ça, c'est une réalité. Et après, la dernière question, parce qu'ils ressortent, en effet, c'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place derrière, non pas pour les rééduquer, mais pour éviter qu'ils réitèrent. C'est ça la façon de voir les choses, à mon avis. En tout cas, la plus lucide par rapport à ce qu'il représente en tant que menace.
Et on en parlera dans quelques secondes sur la surveillance des services de renseignement, la DGSI notamment, avec vous, Jean-Charles Brizard, vous connaissez bien ces questions de sécurité, vous nous donnerez votre point de vue sur la surveillance de ces individus. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on se retrouve toujours avec le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on parle de terrorisme. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison, 43 cette année, une soixantaine en 2021. On en parle notamment avec Jean-Charles Brizard, qui est président du Centre d'analyse du terrorisme. Alors, on se posait cette question de l'endoctrinement en prison. On a constater que c'est un vrai phénomène et un vrai problème. Et une fois que ces individus sortent de prison, 43, je le disais cette année, 43 c'est beaucoup, beaucoup sortent, ils sont toujours aussi dangereux, aussi radicalisés en tout cas, comment est-ce qu'on les surveille et est-ce qu'on a le moyen de les surveiller? Moi j'ai toujours entendu dire par la DGSI, les services intérieurs, qu'on n'avait pas les moyens de les surveiller H24 parce que ça mobilise trop de personnes, et qu'en France, il y a aujourd'hui 8000 personnes qui sont fichées S et qui sont suivies pour radicalisation, et que voilà, on n'a pas les moyens de les surveiller.
Plusieurs choses. D'abord, une chose que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Hugo Micheron. Il faut bien prendre conscience d'une chose, et ça a été très bien dit par Hugo Micheron, on est dans une temporalité totalement différente avec les djihadistes. Les djihadistes parient sur le temps long. On l'a vu,
Charlie Hebdo, les premières menaces il y a 4 ans auparavant, et puis ces attentats perpétrés en 2015.
Donc pour vous, la menace, elle est encore hyper présente aujourd'hui en France ?
Mais bien évidemment.
Parce qu'on l'a un peu oublié.
Non, la menace est bien sûr là. Si on a pu affaiblir le territoire et les capacités opérationnelles de notamment de Daesh sur zone en Syrie, en Irak, on n'a pas pu circonscrire l'idéologie. C'est encore une fois, ces individus sont imprégnés par cette idéologie, et on est face à ces individus. Donc la prison pour eux, c'est une phase transitoire, ça a été dit, une phase de réarmement idéologique, une phase où on met en place des réseaux, hein, une phase opérationnelle aussi pour certains. Et donc il faut tenir compte de ça, tenir compte aussi de la longévité de la menace à laquelle on va avoir à faire face. C'est-à-dire de nombreuses années. Et par rapport à ça, effectivement, les dispositifs qui existent aujourd'hui en termes de suivi de ces individus, suivi administratif, hein, puisque les mesures de suivi judiciaire ont été censurées par le Conseil constitutionnel, donc suivi administratif, suivi des services, est limité dans le temps. Ces dispositions sont limitées dans le temps. Et je crois que c'est une erreur, parce qu'il ne faut pas être tenu par une durée maximale. Il vaut mieux réévaluer périodiquement la situation de dangerosité de ces individus plutôt que d'avoir à cesser à un moment donné les mesures de surveillance.
C'est limité.
Alors comment,
dans quel...
Alors, un an, 6 mois, un an, ça dépend, mais pour les MICAS par exemple, c'est limité dans le temps.
C'est quoi les MICAS ?
Les MICAS, c'est les mesures individuelles de surveillance et de contrôle qui sont appliquées à ces individus
en
particulier.
Donc au bout d'un certain temps, on les débranche.
Ah ben oui, de toute façon, déjà, on a la chance de pouvoir les surveiller en post-carcéral, parce qu'encore une fois, ils ont purgé leur peine. Hein, donc théoriquement, vis-à-vis de la justice, ils n'ont plus de compte à rendre.
Donc là, il y a un vrai danger aujourd'hui avec la libération de ces 43 individus.
Bien sûr qu'il y a un vrai danger, parce qu'aujourd'hui, les mesures sont insuffisantes en termes administratifs. D'abord, elles ne sont pas suffisamment encadrées, et c'est la raison pour laquelle la proposition de loi de la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale était bienvenue, parce qu'elle visait à replacer ces mesures dans un cadre judiciaire. Les mesures administratives, quelles sont-elles aujourd'hui ? C'est essentiellement des mesures électroniques de suivi. Pas se leurrer. Évidemment, vous avez raison de le dire, on n'a pas les moyens. Aucune démocratie n'a les moyens de suivre toutes les personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Pas plus la France qu'une autre. Et de surcroît, je rajouterai une chose très importante, c'est que vous citez le chiffre des 8000 individus fichés au FSPRT. Même ce fichier...
Pour radicalisation.
Oui, pour radicalisation à caractère terroriste. Même ce fichier ne représente pas l'intégralité de la menace. Je rappelle très souvent que depuis Mera, 60% des individus qui ont frappé en France étaient inconnus des fichiers des services de renseignement. Et donc, même si on suivait une logique, comme certains le souhaitent, c'est-à-dire de surveiller tout le monde, ça ne serait pas encore suffisant pour prévenir, entraver, anticiper la menace.
La déradicalisation, Hugo Micheron, ça peut fonctionner ?
En fait, peut-être à l'échelle individuelle, c'est-à-dire sur les 500 djihadistes derrière les barreaux, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas au moins quelques-uns, ou voire plus, qui rentreront dans le rang. Mais si par ailleurs...
Mais vu l'enjeu de la menace, ce n'est pas le sujet, c'est
oui,
ça
Mais oui, parce que si pendant le même temps, vous en avez 700 chez les droits communs qui se radicalisent au djihadisme, la société française, elle est moins bien, si vous voulez, entre 2015 et 2020.
On a toujours un coup de retard.
En fait, c'est très important de comprendre cette question de la temporalité des séquences. Daesh, en 2015, a été au sommet de ses capacités organisationnelles et logistiques dans l'Hexagone. Ça donne une série d'attentats pendant 2 ans. Désormais, Daesh a été vaincu au moins en partie au Levant, militairement, a perdu une bonne partie de ses réseaux en Europe. Du coup, les djihadistes ont plutôt tendance, si vous voulez, comme la marée s'est retirée, à jouer plutôt un profil bas. Et donc, ils vont s'investir dans d'autres activités que le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est jamais qu'un moyen. Et parmi celles-ci, il y en a plein qui ne sont pas sanctionnables par la loi et qu'il faut pourtant observer. Ça va être du prosélytisme. Alors, l'organisation de séminaires.
Justement, pardon, je vous arrête, Hugo Micheron, parce que c'est une question fondamentale. Fondamentale. Est-ce que l'entrisme religieux et le séparatisme, dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que ça fait le terreau du terrorisme ? Pour être clair, est-ce que demander des repas adaptés, interdire aux jeunes filles d'aller à la piscine, est-ce que ça participe à un embrigadement qui peut conduire au bout du bout au terrorisme ?
Alors, de la façon dont est posée la question, la réponse est évidemment non, il n'y a pas de lien direct. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les djihadistes seuls n'ont aucune capacité d'action. Ils doivent systématiquement se greffer à un conflit ou se greffer à d'autres mouvements, d'autres courants religieux du militantisme islamiste qui sont présents dans nos sociétés, parmi lesquels les salafistes, les frères musulmans. Ça définit un terreau. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant d'observer, parmi les djihadistes que j'ai rencontrés, la quasi-totalité était passée par ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il y a un engagement antérieur dans l'islamisme qui, pour certains, qu'ils vont considérer poursuivre en entrant dans le djihadisme. Et donc, il faut étudier, il faut rentrer dans cette boîte noire qui est extrêmement compliquée, mais il faut pouvoir documenter, objectifier ces dynamiques. Sinon, on ne va rien comprendre.
Oui. Béatrice Bogère, sur la même question. Est-ce que le terreau du terrorisme trouve sa racine dans cet entrisme et dans cet islam politique ? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des salafistes. J'ai vu qu'ils étaient 40 000 recensés en France. On parle souvent des frères musulmans qui comptent 50 000 membres. Mais on dit aussi que le salafisme est contre la violence, que les frères musulmans ne sont pas favorables à Daesh. Donc, est-ce que les deux sont liés ?
Alors, je vais un peu reprendre ce que vient de dire Hugo Micheron, avec qui je suis d'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'islam politique, c'est un projet politique de modification de nos valeurs occidentales. Et le terrorisme est un mode d'action pour ceux qui sont, j'allais dire, les plus convaincus, les plus acharnés et qui veulent vraiment agir tout de suite. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a équivalence entre les deux. On peut simplement dire que l'un infuse l'autre ou inspire certains. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à la fois les assimiler, mais il ne faut pas non plus les séparer. Parce que les séparer serait la même erreur que les assimiler, en réalité. Mais... enfin, pour répondre à votre question, on est en effet sur une course de vitesse par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est qu'il y a quand même, il faut les lire, il y a une volonté, il y a un projet, si vous voulez, de toucher maintenant des secteurs clés et de faire des infiltrations. On l'a vu dans certains secteurs comme le sport, les jeunes, etc. Donc il y a un projet, et ça, il faut savoir l'identifier. Donc ça, c'est intéressant.
Donc le projet de loi, pour terminer en quelques secondes, Jean-Charles Brizard, le projet de loi contre le séparatisme, il a une utilité aussi de ce point de vue-là ?
Bien évidemment. Tout ce
que le président nous présentera à l'automne.
L'islam politique en tant que stratégie d'entrisme, de provocation systématique, etc., de notre société, c'est bien sûr le terreau, en grande partie de cette violence dont on a parlé aujourd'hui. Donc, bien évidemment, c'est lié, il ne faut pas l'oublier, même si, effectivement, fondamentalement, ça ne l'est pas. Mais en revanche, certains se servent de ces fractures que créent finalement les provocateurs pour agir.
Merci à tous les trois pour cette discussion, cet échange, ce débat. 19h49, on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre ce débat sur le terrorisme et on va vous raconter le jour où les forces spéciales américaines ont neutralisé Ben Laden. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h53 la suite du Club des idées d'Europe Soir. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints pour plonger avec nous dans les archives et offrir cette petite pastille aux auditeurs et aux auditrices d'Europe Soir. On parle ce soir du terrorisme. C'était le débat ce soir avec nos invités. On va prolonger la discussion avec vous sur le jour où les forces spéciales américaines ont tué Oussama Ben Laden.
Ce jour où tout le monde est pris par surprise quand une dépêche s'affiche en rouge sur le fil de l'agence France Presse. Au petit matin, 4h43 précisément, ce n'est alors qu'une info des télés américaines jusqu'à cette intervention de Barack Obama.
Aujourd'hui, à ma demande, j'ai lancé une opération militaire au Pakistan. Après quelques combats, les militaires ont réussi à tuer Oussama Ben Laden. Nous pouvons donc aujourd'hui annoncer à toutes les familles qui ont perdu un être cher que justice a été rendue.
Justice has been done. Cette justice, c'est celle des Navy SEALs. Elle se rend en pleine nuit, expéditive et sans pitié, puisque l'assaut sur la villa du chef d'Al-Qaïda dure 9 minutes. 9 minutes, 3 balles dans la tête qui ponctuent une traque de 10 ans. Le tireur le confirme, il n'était pas question de le faire prisonnier. Preuve de l'empressement des militaires américains. Seulement un quart d'heure s'écoule pour confirmer l'identité de la cible. Et c'est Jean-Philippe Ballas, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, qui donne les premiers détails de l'opération.
Il y a eu des échanges de tirs. Oussama Ben Laden a été tué, son corps a été récupéré et les premières images de la dépouille de Ben Laden ont été diffusées il y a quelques minutes sur la télévision américaine.
Oui, le corps a été exposé comme un trophée. Jean-Sébastien, immédiatement, les Américains descendent dans la rue pour fêter ça.
À New York principalement, évidemment, où beaucoup se réjouissent du succès de cette opération, même si cette jeune femme rencontrée par Léa Baron tempère cette joie sur le lieu même des attentats du 11 septembre, Ground Zero.
Je pense qu'une grande partie des Américains, comme moi d'ailleurs, ne célébrons pas sa mort. On aurait peut-être même préféré le voir capturé et traîné en justice.
Les services de renseignements occidentaux l'ont découvert comme tout le monde. Personne ne s'en offusque, à part dans certains pays qui dénoncent une violation de la souveraineté du Pakistan. En France, le gouvernement appuie la décision. C'est Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'en charge quelques heures après l'assaut au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
C'est un combat que nous avons en commun, comme vous le savez. Nous nous battons, nous aussi, contre le terrorisme, qui est un fléau abominable, puisque c'est la lâcheté par excellence. Et comme l'a dit le président Obama, le sentiment qu'aujourd'hui justice est faite explique cette explosion de joie du peuple américain que nous pouvons que partager.
Oui, parce que Jean-Sébastien, la France n'hésite pas non plus à éliminer les djihadistes qui sont dans son viseur.
Avant le 11 septembre, Khaled Khalkhal, l'auteur de la série d'attentats de 1995, est tué dans une forêt de la région lyonnaise. Plus tard, au Sahel, Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek Droukdal ont connu le même sort, mais revenons à Ben Laden. Tout est allé si vite que les Américains font même disparaître la dépouille du chef d'Al-Qaïda. La justification est donnée par le porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous n'avions pas le temps de trouver un arrangement avec un autre pays pour enterrer le corps. La meilleure façon d'être sûr de respecter les traditions d'une cérémonie musulmane était de le faire en mer.
Et il s'écoule à peine plus de 9 heures entre la mort d'Oussama Ben Laden et le moment où le porte-avions Carl Vinson largue le corps lesté du chef d'Al-Qaïda au beau milieu de la mer d'Arabie. Il ne fallait pas de lieu de pèlerinage pour les djihadistes, il fallait aussi pousser à son paroxysme l'image de fermeté.
Merci Jean-Sébastien pour avoir plongé pour nous dans les archives. Le jour où, c'est tous les soirs dans Europe Soir à partir de 19h50.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57 dans un instant, le retour de l'actu pour quelques instants. Et puis Émilie Mazoyer, bien sûr, avec de la chanson, du spectacle et un peu de douceur. Ce soir, elle reçoit Bilal Hassani, à ne pas rater. A tout de suite, Émilie. Et puis nous, on se retrouve, eh bien, même lieu, même heure, demain, à partir de 18h, pour le Grand Journal et le Club des Idées, avec un invité exceptionnel. Demain, ce sera Alain Juppé. Ciao.